Je vous invite à entendre avant toute chose la prophétie de Joël au chapitre 3 du livre de Joël, les versets 1 à 5. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'avènement du jour du Seigneur grandiose et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En effet, il y aura des rescapés sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l'a dit parmi les survivants que le Seigneur appelle. Voilà, chers amis, frères et sœurs, c'est aujourd'hui Pentecôte, évidemment, et je tenais à vous accueillir avec ce texte du prophète Joël, qui est un petit peu particulier, parce que ses prophéties sont très surprenantes, parce qu'elles sont de style apocalyptique. Et ce style est très souvent violent, il faut reconnaître les choses comme elles sont, mais ce sont des visions, il ne faut pas l'oublier, ça ne correspond pas toujours à la réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces visions de Joël laissent des ouvertures comme l'annonce de l'Esprit Saint sur toute chair. Et que ce soit des jeunes, des vieux, même les serviteurs et les servantes, donc des gens qui étaient plutôt laissés de côté, eh bien, sont au bénéfice de cette annonce de l'Esprit sur toute chair. Alors je souhaite, et vous aussi sans doute, que toute personne en ce monde réalise qu'elle a une part de l'Esprit de Dieu et qu'elle est aimée de Dieu comme vous l'êtes aussi. Pentecôte, c'est un message de joie et d'espérance pour tous ceux qui sont dans la peine, il ne faut pas l'oublier, et certainement que nous en connaissons les uns les autres, surtout dans cette période évidemment, mais aussi ceux qui sont dans la joie et peut-être aussi ceux qui sont dans l'insouciance, parce que là aussi il y en a aussi quelques-uns. Quoi qu'il en soit, et quelles que soient nos appartenances, nos manières d'être, de vivre, bien sûr, il nous faut marcher animés par les fruits de l'esprit en ce temps de Pentecôte. Et ces fruits de l'esprit, eh ben, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la bienveillance, toutes sortes de qualités et de manières d'être qui nous font percevoir le monde d'une manière nouvelle et extrêmement positive. Alors, à toutes et à tous, sentez-vous accueillis avec joie pour vivre la fête de Pentecôte dans l'espérance et la plénitude de l'Esprit. Et je vous invite à prier Dieu. Père, nous voulions te remercier pour cette fête et pour ce printemps, pour ce soleil qui nous apporte la lumière et qui reflète peut-être la lumière de l'Esprit et la lumière intérieure qui brille en nous grâce à ta présence. Oui, Père, nous voudrions te remettre ce culte et cette journée afin que la fête de Pentecôte soit vraiment une très grande fête de l'espérance, de la conversion, du retour sur soi et de l'avenir qui s'ouvre devant nous. Père, nous te prions pour te remettre pour ce moment de culte et pour les jours qui viennent bien des visages et des noms, des situations qui sont là dans nos mémoires, dans nos cœurs. Des gens qui sont dans la peine et dans la nuit, qui sont dans la peur, dans l'angoisse, dans l'attente. Que ton esprit soit là pour leur ôter tous ces soucis qui les accablent et qui empêchent de vivre au final selon ta volonté, c'est-à-dire de vivre dans la liberté et la dignité. Merci Père pour Pentecôte, pour la fête de la loi, pour la fête des moissons. Amen. Et je vous invite à entendre deux textes aujourd'hui. Le premier dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 de cet évangile de Jean, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. C'est un petit peu long, je ne savais pas très bien comment découper le texte, mais je me suis dit, après tout, je vais lire le texte en entier. C'est toujours embêtant de couper un texte parce qu'on coupe des passages, enfin bref, voilà. Donc le chapitre 3 de l'évangile de Jean. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs, et il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Rabbi, Nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme pourrait-il naître s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël, tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Et cependant, nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous les hommes qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière et refuse de venir à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui avaient été accomplies en Dieu. Et puis, le grand texte de Pentecôte, évidemment, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 13. Chapitre 2, versets 1 à 13. Hop là. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur de ce qui se fit, la foule se rassembla et fut en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et puis d'autres s'esclaffaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors, on va revenir sur ces passages, bien sûr, et d'abord sur le livre de Joël. Le livre de Joël qui, évidemment, contient ces visions apocalyptiques qui sont un petit peu particulières, et ce livre a été écrit entre le 6e et le 3e siècle avant notre ère, à un moment donné où Israël cherche à affirmer et à préserver son identité et sa survie, bien sûr. Et donc, comme c'est arrivé en pareil cas, eh bien, les prophètes s'expriment en termes apocalyptiques à grands coups de vision qui sont là pour rassurer le peuple et pour l'exhorter à suivre Dieu. Celle qui nous intéresse aujourd'hui annonce la Pentecôte. Elle annonce, il y a cette annonce tout à fait extraordinaire de l'Esprit qui va venir sur toute chair. L'Esprit qui va être répandu sur tous, sans exception. Et il est effectif que ce sans exception, les servants, les servantes, etc., ça préfigure quelque chose qui ressemble un petit peu à la bonne nouvelle, quoi. Ça préfigure la bonne nouvelle déjà, et une nouvelle manière d'être éclairé par l'Esprit, l'Esprit qui sauve de la catastrophe dont parle Joël, finalement. Alors, quelques siècles plus tard, on a cet entretien avec Nicodème, qui est quand même un entretien extrêmement intéressant, bien sûr, et que nous connaissons bien lorsqu'on lit la Bible, on accroche facilement avec ce passage. On accroche parce que bon, Nicodème est assez sympathique au final, il nous ressemble, et c'est quelqu'un qu'on va retrouver après dans l'Évangile, enfin bref. Alors cet entretien avec Nicodème, qui nous ressemble un tout petit peu comme personnage, cet entretien avec Nicodème, il se place au début de l'Évangile et il se place juste après l'épisode des vendeurs chassés du temple et du premier signe de l'Évangile de Jean qui est le passage relatif aux noces de Cana. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage des vendeurs chassés du temple, Jésus tresse un fouet et il exprime une très grande violence, beaucoup plus que dans les trois autres évangiles synoptiques. Et on imagine du coup ce que ça a pu être comme scandale finalement de voir ainsi une telle violence s'exprimer sur le parvis des femmes, qui est le premier parvis du temple à Jérusalem, et devant un monde assez important finalement. Donc là, il y a un scandale, Jésus a dû frapper les imaginations de manière très très forte. Ensuite, le passage qui précède, c'est Cana. Les noces de Cana, dans lesquelles, vous le savez, l'eau est changée en vin, exprime le passage de la première alliance à la deuxième alliance. Première alliance était fondée sur la purification des pratiquants, du peuple d'Israël, hein, de la loi, etc., tous ces rites qui sont liés à l'eau purifiante. Et cette eau est changée en vin, ce qui signifie que ça va être le vin de la Sainte Seine, finalement, le sang du Christ, qui va remplacer cette eau pour sauver le monde. Donc il y a un glissement qui s'opère, finalement, dans cette histoire de Cana. Et c'est à ce moment-là que Nicodème va trouver ce Jésus qui pose quand même quelques questions aux Hébreux de l'époque, aux Juifs de l'époque, qui se demandent qui est ce type finalement, qui vient semer le désordre sur le parvis du temple et puis qui dit que l'alliance mosaïque est obsolète finalement, va être remplacée par une autre alliance. Hein, parce que les Juifs qui ont entendu l'histoire de Cana, surtout sur des imbéciles, et donc ils ont très bien compris, très vraisemblablement. Donc Nicodème vient de trouver Jésus, et il vient de nuit, ce qui est assez curieux d'ailleurs. Pourquoi vient-il de nuit? Sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, on peut dire que Jean, l'apôtre Jean, dans son évangile et dans ses écrits, manie la symbolique. Et il est très vraisemblable que si ce détail est noté pour Jean, c'est qu'il signifie quelque chose de fort, quelque chose qui nous dit qu'on est dans une ambiance négative, et voire une ambiance de mort. Nicodème, c'est quelqu'un qui est dans cette ambiance, finalement. Et c'est quelqu'un qui, vraisemblablement, a peur. Il a peur de rencontrer Jésus. Peut-être, bon, il risque pas sa vie, il va pas être lapidé s'il va voir Jésus, très vraisemblablement, mais il a peur sans doute du qu'en dira-t-on, hein, d'être jugé par les autres. Qui sait, pourquoi va-t-il trouver ce fauteur de troubles, ainsi de suite, bon, on n'a rien à faire avec lui, c'est un renégat, enfin, etc. Alors, et Nicodème va trouver Jésus, et comme c'est un notable des Juifs, il fait partie du Sanhédrin, Hein, c'est quelqu'un en vue, très visiblement, quelqu'un de connu. Il va trouver Jésus comme ça. Et il va trouver Jésus en se cachant doublement. D'abord la nuit, ce que je viens de dire, puisque comme ça, non seulement il y a cette ambiance dont je viens de parler, mais aussi, bon, il n'y a plus personne la nuit, évidemment, hein, qui va le voir, qui va le rencontrer. Mais il va se cacher aussi dans son discours. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il dit « nous savons hein, ». Nous savons. Voilà. Il avance masqué derrière le pluriel de la première personne du singulier, qui signifie le groupe, le Sanhédrin ou le peuple, enfin, peu importe. Dire. Donc il n'apparaît pas lui-même au grand jour. Hein, il ne dit pas « je suis ». Il aurait pu dire « nous savons et moi aussi je sais hein, ». Non, pas du tout. Il dit « nous savons hein, ». Il ne se mouille pas, comme on dit. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi que Jésus, que Nicodème n'est pas sûr de lui finalement. Dans son fort intérieur, il y a quelque chose qui cloche, qui tourne pas rond. Il y a du doute, très vraisemblablement, de la peur, comme je l'ai dit, et puis quelque chose qui n'a pas vis-à-vis de lui-même. S'il était clair vis-à-vis de lui-même, il ne viendrait pas de nuit, il ne viendrait pas comme cela, masqué derrière cette première personne du pluriel, très vraisemblablement. Et ensuite, il n'avancerait pas avec la flatterie. Nous savons que tu es un maître, etc. Enfin bon, voilà. Il serait venu d'une autre manière, très vraisemblablement. Donc, il y a un mal-être chez Nicodème. Ce qui est assez curieux, c'est de voir comment Jésus va entrer dans le dialogue. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que Nicodème ne pose pas de questions, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais en revanche, Jésus répond comme si Nicodème avait posé une question. Et Jésus répond à Nicodème d'abord en l'impliquant. Il va l'impliquer, il va lui dire « tu, comment toi ?» Et c'est intéressant, cette manière qu'a Jésus d'impliquer Nicodème, c'est que Jésus va arracher Nicodème finalement à sa manière d'être et de se camoufler. Et il va s'adresser directement à lui, dans son être vraiment personnel et profond. C'est intéressant parce que ce n'est pas le seul cas que l'on a où on voit Jésus s'adresser à quelqu'un de manière directe comme ça et aller le chercher jusqu'au fond de lui-même pour le réveiller. Et lorsque Jésus rencontre Bartimée, il lui demande « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Hein, on l'a vu quand on a abordé ce texte inculte, je m'en souviens. Hein, alors finalement, la réponse est évidente. Hein, quand on demande à un infirme « qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ?» ben, l'infirme dit ben, « quand mon infirmité s'arrête, évidemment, c'est assez évident. » Mais en fait, personne ne pose la question. Jésus dit « qu'est-ce qui ne va pas chez toi à Bartimée ? Qu'est-ce que tu voudrais ? Quel est ton souhait véritablement ?» Alors l'autre, il répond, voilà. Mais il est, par cette deuxième personne du singulier, il est arraché à sa torpeur intérieure. C'est pareil avec le paralysé à Bethsaïde, à la fontaine. Hein, il dit « qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je fasse pour toi ?» C'est pareil, alors, le paralysé va dire « ouais, mais moi, quand je suis paralysé, quand il y a l'ange qui arrive, qui remue l'eau de la fontaine, eh bien, il n'y a jamais personne pour me porter dans l'eau. Quoi. Et donc, j'arrive toujours trop tard. » Donc, voilà. Et on a ce type de dialogue avec Jésus et son partenaire. Et là, on retrouve cette même manière d'être de Jésus qui va interpeller la personne pour l'arracher à elle-même, finalement. Hein? Voilà. Comment toi, un maître, etc., en Israël, etc. Et donc, il répond à une question, d'abord, non formulée par Nicodème, en l'impliquant et en répondant à une question qu'en fait Nicodème se pose mais qu'il n'a pas formulée. Et ça aussi, ça fait partie de la bonne nouvelle. Je crois que le Christ vient nous chercher, comme il va chercher Nicodème, le paralysé ou l'aveugle dont je viens de parler, et bien d'autres encore, de cette manière, pour nous arracher à notre torpeur intérieure, à notre peine intérieure peut-être, je ne sais pas, hein, et répondre à des questions qu'on n'arrive pas à formuler ou qu'on n'ose pas formuler. Voilà. Hein, et cette question, c'est une question que nous aussi, la question de Nicodème, qui n'est pas formulée dans le texte, mais à laquelle Jésus répond, c'est une question que nous nous posons, nous aussi, au final. C'est peut-être pour ça qu'on aime bien Nicodème, d'une certaine manière. Hein, parce que la question que pose Nicodème, qu'il se pose, c'est le sens de sa vie, au final. Voilà. Il n'est pas sûr, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr de sa vie. Il n'est pas sûr du sens de sa vie. Pourtant, il a la réussite dans la vie, puisqu'il est, c'est un notable. C'est-à-dire, donc, on peut dire, ah, quelle réussite, etc. Mais s'il a réussi dans la vie, a-t-il réussi sa vie ? Pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. Et c'est bien ce que Jésus perçoit. Nicodème, s'il a réussi dans la vie, n'est pas certain du tout d'avoir réussi sa vie. Et Nicodème, il est comme tout le monde, finalement. Il est dans sa vie, il est empêtré dans sa vie, dans ses soucis, dans la chair. Il reste sur ce terrain, il a du mal à s'en sortir. Et c'est un homme de la loi, il va appliquer la loi, comme ça, il la connaît par cœur, hein, puisque c'est quelqu'un du Sanhédrin, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il cause, hein, évidemment. Donc il suit très vraisemblablement, comme le faisaient beaucoup de pharisiens, de manière tout à fait honnête, la loi, les préceptes de la loi, etc. Mais il ne va pas plus loin, je veux dire. Il a une relation à la loi, a-t-il une relation à Dieu ? C'est pas sûr que la relation à la loi soit la même que la relation à Dieu, bien sûr. Hein, il reste dans des logiques humaines, finalement. Hein, et quand Jésus lui dit qu'il faut naître d'en haut et à nouveau, parce que le mot grec qui est utilisé dans le texte de l'Évangile a une double signification. Hein, c'est naître d'en haut et naître à nouveau, ces deux sens. Et lorsque Jésus lui dit il faut naître d'en haut et à nouveau, il reste attaché à la lettre, il reste dans sa logique. C'est pour ça que cette réponse qui nous semble curieuse, comment faire pour renaître à nouveau, comment faire pour retourner dans le ventre de sa mère, lorsqu'on est vieux, je veux dire, hein, lorsqu'on est âgé, d'une certaine manière. Est-ce que c'est de la naïveté ? Est-ce que c'est peut-être un peu de provocation de la part de Nicodème, hein, c'est quelqu'un qui sait discuter, qui sait manier quand même le langage, ou est-ce que c'est tout simplement le signe que Nicodème est vraiment, dans la nuit, prisonnier, finalement, de ses logiques ? Jésus, lui, il est sur un autre niveau, un autre stade. Il est dans la logique de la parole avec un P majuscule, du logos, divin. Il est la parole faite chair, comme le dit le prologue de Jean. Hein, et la nouvelle naissance dont parle Jésus, c'est la naissance d'en haut et c'est la naissance de l'Esprit Saint. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte pour Pentecôte, bien sûr. Alors l'Esprit Saint, c'est une notion qui est difficile à saisir, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de matérialité d'esprit. Jésus, on voit à peu près qui c'est. Je veux dire, il y a un personnage historique, hein, il y a toute une ambiance autour de lui. Mais l'Esprit Saint, alors là, on est un tout petit peu dans le brouillard. L'Esprit Saint apparaît comme un don de Dieu, hein, une sorte de cadeau que Dieu fait aux hommes pour qu'ils puissent naître d'en haut. Et l'Esprit Saint, c'est la parole, hein, cette parole, ce logos, grec, hein, cette parole qui est agissante en même temps. C'est la lumière, c'est l'énergie, c'est ce qu'on dirait le mode d'action de Dieu. Ça signifie la présence de Dieu, etc., qu'on peut saisir dans mille et une actions, mille et une choses de la vie et du quotidien, finalement. Dans tous les cas, l'Esprit Saint est lumière. L'Esprit Saint, ça éclaire l'humain, dans sa nuit. Et c'est ça qui est important. Et ça remet, je dirais, l'être humain en lui-même d'aplomb. Et ça remet l'Esprit Saint d'aplomb, si je peux dire, et avec dans sa relation avec le monde. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. L'Esprit Saint, est à la base de la conversion du monde, du retour sur soi. La bonne nouvelle qui se vit grâce à la puissance de l'Esprit Saint, de la parole agissante, etc., la prédication agissante, je dirais, c'est d'entendre un message qui dit, vous voyez, ce qui est essentiel finalement, c'est que Dieu nous apporte une parole, nous apporte un message, nous apporte une espérance qui est là pour réparer ce qui ne va pas en nous. De telle sorte qu'étant réparé en nous, nous puissions nous retourner vers le monde et voir à partir d'une situation qui est devenue meilleure en nous, quelle relation on peut avoir avec ce monde. Et donc, réparer aussi les relations cassées que nous aurions avec le monde et au final signifier que nous avons avec Dieu une relation qui est une relation positive, je dirais. C'est-à-dire que ces trois relations, homme-Dieu, Dieu-homme, l'homme avec lui-même et l'homme avec le monde et les autres, eh bien, tout cela se lie quelque part. Ça se tient quelque part. Et c'est ça la bonne nouvelle. Hein? Alors, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont pareils, bien sûr, évidemment, mais la variété est là, la richesse de l'humain est là, il faut la garder. Mais lorsqu'on dit qu'il y a la lumière, là, et d'ailleurs, dans les textes de Pentecôte, il y a cette énergie, il y a cette lumière qui est là. Je crois que ce n'est pas neutre de le signaler, c'est parce qu'il y a cette lumière intérieure qui brille. Hein, ce n'est pas, et c'est bien le problème de Nicodème qui est là, il n'est pas dans la lumière, il est dans la nuit, et dans la nuit qui signifie même la mort de l'être, finalement, biologiquement parlant, il est peut-être bien présent, il est bien vivant, je veux dire, mais au niveau de l'être intérieur, il y a du vide, il y a du néant, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mort. Alors Jésus rappelle à Nicodème que le salut, cette guérison intérieure, cette réparation des cassures intérieures que l'on a, qui donne la dépression, qui donne la dépréciation de soi et du monde et des autres, les incompréhensions, tout cela, c'est le salut. C'est le salut qui est en Dieu, qui est en Dieu Esprit. Vraiment la bonne nouvelle. Et il parle du serpent d'airain, hein, en disant, mais regardez au salut, regardez à ce message qui est un message fondamentalement un message d'espérance, et vous serez dans la situation de ces Hébreux qui étaient dans le désert, qui étaient mordus par les serpents, et qui, regardant le serpent d'airain, qui était fiché sur la canne de Moïse, ou de Aaron, je ne sais plus, pardonnez-moi, trouver la guérison. De même qu'on regarde à Jésus en croix, la croix de Jésus, qu'on regarde à ce Jésus qui est allé jusqu'au bout de sa prédication, d'un amour de Dieu, eh bien, il y a la guérison du monde et des nations qui est là. Hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Hein, car Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce que dit de manière magnifique ce passage de l'entretien entre Jésus et Nicodème. Donc il y a la lumière qui est là, parce que la mort et le mal, c'est le domaine de la nuit. Le mal n'avance jamais démasqué, il avance toujours masqué, caché, finalement. Le mal, c'est l'ordre du mensonge, de la manipulation, de la destruction volontaire, etc. Tandis que le Saint-Esprit inaugure un temps nouveau qui est le temps de la lumière, le temps où les œuvres sont là et qu'elles sont évidentes, elles sont de l'ordre de la spontanéité, de la reconnaissance, de l'absence totale de calcul, parce qu'il y a dans tout cela un élan de joie et de reconnaissance. Je pensais donner l'exemple des justes, vous savez, ces gens qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont sauvé des Juifs au risque de leur vie, hein, et certains d'ailleurs l'ont payé de leur vie, et leurs noms sont dans le Jardin des Justes en Palestine, et ils n'y sont pas tous. C'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est qu'on ne sait pas très bien qui ils sont. On ne connaît pas le nom de tous les justes qui sont dans le jardin. Hein. On sait qu'il s'appelle au Chambon-sur-Lignon, il y a le pasteur, etc. Enfin bon, il y a quelques noms comme ça, mais la plupart, on ne les connaît pas. Et ça, je trouve que c'est assez formidable qu'on ne sache pas très bien qui sont tous ces justes. Parce qu'ils n'ont pas sauvé les Juifs pour avoir leur nom sur une plaque ou avoir une statue au coin d'une rue. De reconnaissance. Ils l'ont fait comme ça. Ils l'ont fait comme ça. Ils l'ont fait par un élan d'amour vis-à-vis de ces gens qui étaient persécutés. Et je trouve que dans cette période de la guerre, c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des gens comme les juges, c'est juste, qui sont la foule des anonymes. Et il y a peut-être les parents de certains auditeurs en font partie. Ils font partie de cette foule des anonymes qui ont sauvé le genre humain. Alors que le nazisme, avec sa haine, était dominant, eh bien, il y a des gens qui ont dit non. Ils ont dit non parce que comment ça s'appelle le mal n'a pas triomphé. Le mal n'a pas triomphé parce qu'il y avait ces hommes-là et ces femmes-là qui se sont posées là pour dire non. Et ça, c'est assez fantastique. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume qui est dans la lumière, qui est la lumière qui brille dans les ténèbres, d'une certaine manière. C'est Jésus qui apporte la lumière à Nicodème aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Le Saint-Esprit fait faire aux gens des choses dont ils n'ont peut-être même pas conscience, mais ils vont le faire. Et ces choses-là sont vraiment la lumière du monde. Et ce que Joël a annoncé dans ses visions violentes, je veux dire, c'est ce que Jésus va développer finalement dans son discours à Nicodème, ce discours très particulier finalement, et c'est ce que les disciples vont accomplir à Pentecôte. On a l'impression qu'il y a une sorte de progression comme cela. Et ce qui a été semé par la parole des prophètes, type Joël et quelques autres, bien sûr, il n'est pas tout seul dans son cas, eh bien, ça va grandir après la prédication de Jésus dans cette fête de Pentecôte, qui est la fête de la loi pour les Juifs, hein, la fête du don de la loi. Hein, c'est Pentecôte, hein, c'est le premier sens. Mais c'est aussi une fête des moissons aussi. Hein, c'est une grande fête de fin de printemps dans les pays qui sont plus chauds que les nôtres. Et donc, c'est une grande fête de l'espérance, finalement, de la reconnaissance d'un côté de l'espérance. Hein, et c'est une fête qui ouvre à l'avenir. Et qui donc font passer les hommes de la fin de l'hiver avec ce qu'on appelle la période de la soudure, qui est toujours une période difficile, la fin de l'hiver, parce que les réserves se sont épuisées, hein, évidemment, à l'abondance de la récolte. Hein, donc on sort d'une période difficile où il pouvait y avoir des disettes, voire des famines, qui étaient très nombreuses, c'est-à-dire dans l'Antiquité, et on entre dans la période de la moisson, de la récolte, etc. Et c'est là où les âmes sont transformées. Et c'est dit dans le texte, parce que quand même, les disciples, Pierre en tête, ils apparaissent souvent comme gaffeurs. Je sais pas si vous avez remarqué, ils se trompent souvent, ils veulent les premières places. Regardez Jacques et Jean, les fils du tonnerre, là, hein, quand ils vont trouver Jésus, oh, vous voudrez la première place, etc. Dire, bah, Jésus, écoutez, vous vous plantez, les gars, hein, c'est pas tout à fait ça. Hein, en gros, hein, je résume de manière un peu triviale, enfin c'est un peu ça. Ils sont gaffeurs, ils abandonnent Jésus au moment de l'arrestation de Jésus, finalement de la crucifixion. Pierre va carrément renier, ni plus ni moins. Judas a trahi, voilà. Et en plus, ils ont tous peur après, voilà. Et pourtant, c'est assez génial, c'est de voir comment ces types, ces hommes-là qui sont de condition en général modeste, en dehors peut-être de Nathanaël, qui est l'intellectuel du groupe, comme je dis souvent dans l'évangile de Jean, comment ces hommes qui sont plutôt de condition modeste, qui ont tous les défauts dont je viens de parler, comment les chrétiens ont fait des hommes complètement nouveaux, complètement nouveaux. Hein, ils sont tous unis par l'esprit, mais ils sont différenciés, évidemment, chacun reçoit l'esprit, sa part d'esprit, si je puis dire, l'esprit qui se divise à l'infini, comme l'amour se divise à l'infini en restant constant. Hein, et donc Joël avait raison. Joël avait raison. Hein, tous les servants, les serveurs, les servantes, les jeunes, les vieux, etc. Les Nicodèmes, hein, tous ceux qui sont un peu comme ça, qui ont des problèmes intérieurs, qui ont peur, tous les gaffeurs du monde, hein, tous les timorés, sont au bénéfice de l'Esprit-Saint. Hein, la bonne nouvelle, c'est un message universel, c'est un message pour tout le monde. Pierre et compagnie vont sortir. Ils vont sortir transformés, ils vont bouger, ils vont prêcher, ils vont aller au bout du monde. Ils vont aller au bout du monde. Bon, on a l'impression qu'ils sont allés à Rome, vers l'ouest, mais il faut pas oublier, c'est Barthélemy qui a dû aller vers le nord et qui a évangélisé, entre autres, l'Arménie. L'Arménie qui, à la fin du deuxième siècle, à peu de choses près, à quelques années près, va devenir le premier royaume chrétien du monde avant Rome. Et puis, si vous allez en Inde, vous rencontrerez des églises chrétiennes qui se réclament des apôtres. hein, qui se disent avoir été fondées par les apôtres, Thomas, des gens comme ça, des gens qui sont moins connus que Pierre, Jacques et Jean en Occident. Voyez. Donc, on a bien l'impression que ces hommes sont allés dans tous les sens du monde. On sait que Paul est allé en Arabie, hein, aussi, il le dit d'ailleurs lui-même, hein, quand il se présente. Ils sont allés partout. Et il y a un changement radical qui s'opère chez ces gens-là. L'annonce du salut pour tous, véritablement, c'est un message qui est audible et compréhensible par tous. Quand on dit à n'importe qui, dans n'importe quelle langue, écoutez, n'ayez pas peur, il y a un Dieu qui est là, qui est plein d'amour, de compassion, de vie, d'énergie pour vous-même, soyez dans l'espérance, la mort a été vaincue, etc. Si on entre dans ce discours, eh bien, c'est un discours qui est audible dans toutes les cultures, finalement. On a l'impression d'avoir l'anti-Babel. Souvent, à Pentecôte, on lit l'histoire de Babel avec ses langues, bon, qui sont éparpillées, etc. On est dans l'anti-Babel, qui s'exprime ici, non pas pour avoir plus de puissance et être au service de la puissance, mais c'est par amour. Par amour. Dieu créant une humanité nouvelle dans la confiance et la béatitude de la grâce. Pentecôte nous dit l'amour de Dieu, un amour qui est actif, qui est actif, qui est une parole créatrice. Et il dit que la grâce exclut aussi le jugement. Hein, il n'y a pas de jugement dans l'annonce de la grâce, dans l'annonce du jugement. Il n'y a pas de catégorie hein, qui enferme les gens comme au sens étymologique du terme. On ne va pas dire tiens, un tel est comme ci, comme ça. Non, on est toujours autre, on a toujours plus de ressources, plus de richesses à mettre en exergue, à faire grandir, à créer, et ainsi de suite. C'est assez curieux d'ailleurs, quand j'écrivais ces lignes, c'est assez curieux de voir que Jésus n'a pas jugé Judas. Jésus n'a pas jugé Judas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il dit, fais ce que tu as à faire. Il dit, bien sûr, Jésus sait très bien qui est Judas, sait très bien ce qu'il est en train de faire, mais il ne le juge pas. Il ne dit pas, t'es un renégat, t'es un traître, t'es un pourri. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, voilà. Voilà. Bon, Judas se perd tout seul, en fait. Hein. C'est d'autres problèmes du mal, certes, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Mais voilà. Mais dans tous les cas, dans la bouche de Jésus, il n'y a pas de jugement porté sur quelqu'un qui risque d'enfermer la personne et de la détruire au final. Pentecôte est universelle, toutes les nations sont touchées, ce que dit le texte de Pentecôte, les actes des apôtres, et nous aussi, évidemment, nous sommes concernés. Hein, la force de l'esprit est en nous. Hein, comme diraient les jeunes, vous savez, les jeunes, ils disent, des enfants, là, avec la guerre des étoiles, ils disent la force du Jedi est en toi. Tu sais, nous, les chrétiens, on dit la force de l'esprit est en nous. Je ne sais pas si c'est une similitude entre ces deux forces, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je dis, enfin, peu importe. Mais je trouve qu'effectivement, il y a un projet de Dieu que l'on a à vivre, qui est le projet d'un monde régénéré, d'un nouveau monde finalement, hein, qui est un monde d'espérance, un monde d'harmonie, d'une certaine manière, que nous sommes appelés à vivre grâce à la puissance de l'esprit, et nous sommes tous appelés à vivre cette dimension du monde. Nous sommes certainement pas que des êtres de chair, hein, ça, certainement pas. Je crois que le problème que l'humanité doit éviter, il y a un écueil que l'humanité doit éviter, me semble-t-il, c'est d'être que des êtres de chair. Nicodème est un être de chair, de qualité, quelqu'un bien, très vraisemblablement, c'est quelqu'un qui est curieux aussi, il a des qualités, ça c'est sûr, mais il reste un être de chair, enfermé dans ses problématiques matérielles, matérialistes, etc. Mais je crois que les hommes ne sont pas du tout que des êtres de chair, évidemment. Hein, les hommes sont ceux que Dieu va tutoyer hein, par tout simplement affection paternelle. Hein, je veux dire, comme un père va tutoyer son enfant, hein, ben Jésus, Dieu par Jésus va tutoyer les hommes, hein, les chercher dans leur vie. Et en retour, nous tutoyons Dieu par affection filiale. Je trouve que c'est assez formidable que les réformateurs au XVIe siècle, dans le Notre Père, aient tutoyé Dieu. Hein? Que ton nom soit sanctifié, hein? Que ton règne vienne, etc. Hein? Et non pas que votre nom soit sanctifié. Et les catholiques ont mis un peu plus de temps pour arriver à ce tutoiement, mais je trouve que les êtres humains ne sont pas que des êtres de chair, sont des êtres d'esprit qui sont en relation proche, affective, avec Dieu. Ce qui fait la qualité de l'humain, ce qui fait que chaque être humain a de la valeur, de la dignité. On ne peut pas catégorier les êtres humains, les enfermer dans une définition par l'esprit, par précisément cet événement de Pentecôte qui est signifié là, eh bien, ils sont autres, ils sont beaucoup plus riches, ils sont beaucoup plus intéressants finalement, et on ne peut pas les juger et les enfermer. Hein? Mais nous, voilà, et donc nous sommes donc appelés à naître d'en haut et dans une naissance qui est sans cesse renouvelée par l'écoute de la parole, la lecture de la Bible, la rencontre, les projets, ainsi de suite. Il y a dans l'Esprit Saint qui nous est offert, qui est en chacune et chacun d'entre nous, quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique de la vie, de la dynamique du royaume, ce royaume auquel nous sommes appelés à participer. Amen. Je vous rappelle que pendant ce morceau de musique, vous pouvez aller chercher ce que je vais faire, un morceau de pain et un peu de vin, parce qu'il va y avoir la Sainte Cène. Hein. Participer à la Sainte-Cène, je ne sais pas si vous avez devant vous un peu de pain, un peu de vin, ou du jus de raisin en ce qui me concerne, mais on va faire comme on fait d'habitude, hein. Chacune et chacun participera à la Sainte-Cène à partir de sa maison, mais de toute façon il y a quelque chose dont on est sûr, surtout à Pentecôte, c'est qu'on est toutes et tous réunis par l'Esprit-Saint, évidemment. Voilà, il est vraiment digne et juste, c'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps, à tout lieu, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Saint, qui au commencement a créé toute vie par le souffle de ton esprit et qui autant marqué l'a envoyé sur ton Église et le répand sur le monde. Par lui, tu nous donnes la lumière, la force et l'amour, et tu veux faire de nous, en Jésus-Christ, un seul corps qui t'appartienne et te serve dans l'attente de ton royaume. C'est pourquoi, avec la communion des saints, avec les rachetés de tous les âges, nous adorons et nous magnifions ton nom, Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Alors, le soir venu, du jeudi soir avant le vendredi, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit, le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et je vous invite à prier Dieu. Père, tu nous connais les uns les autres, tu connais notre être, même ce qui est caché en nous. Mais tu nous appelles par nos noms et tu nous tutoies, marquant ainsi toute l'affection que tu nous portes. Et tu nous appelles par nos noms, les uns et les autres, pour vivre une vie élargie, une vie nouvelle, une vie dans la lumière, une vie dans ton esprit. Tu nous appelles et tu nous nourris par la force de cet esprit qui nous dit ta présence au monde et l'espérance que nous pouvons fonder en toi, ta parole. Tout ce qui nous a été transmis par les prophètes et par Jésus-Christ. Oui, Père, il y a cette parole qui agit en nous, qui nous fait saisir ta présence et qui nous dit que dans ce monde, il y a des signes de cette présence, des partages, des appels, des rêves peut-être, mille et une choses qui nous touchent dans notre quotidien. Mais il y a aussi ces signes, des signes que sont le baptême et la Sainte Cène. Aujourd'hui, pour ce temps de Pentecôte, nous partageons la Sainte Cène, le souvenir du dernier repas, le partage du pain et du vin, et nous prions pour que ce partage d'aujourd'hui, dans les conditions particulières que nous vivons, soit vraiment le partage, qui nous dise le royaume, l'unité des êtres humains, leurs espérances, leurs joies, leurs problèmes aussi, mais qui nous dise surtout que tu es là, au cœur de nos vies, pour nous faire vivre. Et que ce partage du pain et du vin soit vraiment le signe de ta présence dans le monde et dans nos cœurs. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux ceux que tu prends avec toi pour les nourrir des biens de ta maison. Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Viens, dit Jésus, viens car tout est prêt. Donc je vous invite à participer à ce partage, à cette sainte scène, un petit peu particulière, évidemment. Le pain rompu, c'est le pain de la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps qui s'est donné au monde pour que le monde vive par lui. Et puis la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est la coupe au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang d'une alliance éternelle, animée et réactivée sans cesse par l'Esprit. L'Esprit qui a été répandu sur nous. Amen. Et je vous invite à entendre un morceau de musique pendant que nous vivons ce partage de la Sainte Cène.
Vous voulez chanter, vous pourrez chanter en même temps parce que c'est, vous le connaissez ce morceau.
Secret de nous.
Père, nous te prions. Nous te prions d'abord pour te remercier pour la fête de Pentecôte, pour cette fête qui nous dit un amour universel et qui nous ouvre les portes de l'espérance, de la conversion, du retournement pour aller vers des horizons toujours nouveaux, renouvelés, des horizons pleins de vie et de joie. Nous prions pour te rendre grâce aussi, Père, pour cette Sainte-Cène. C'est assez fantastique de se dire que malgré les distances, nous sommes ensemble, les uns et les autres, unis par cet Esprit. Nous prions pour cette Sainte-Cène. Elle représente peu de choses, quelques gouttes de jus de fruits, quelques miettes de pain. Mais pourtant, ça signifie qu'avec un mot, rien qu'un mot, un geste, rien qu'un geste, il peut se passer tant et tant de choses. Nous prions aussi pour le renouveau du printemps, pour la fin d'une période difficile, pour des guérisons qui ont eu lieu, mais aussi nous prions pour les peines, ces peines qui sont d'autant plus dures à supporter quand on a le sentiment d'être exclu de la joie et de l'espérance. Et nous pensons tout particulièrement à ceux qui sont ainsi malades, miséreux, détenus, victimes d'un système injuste et d'hommes avides de pouvoir, ceux qui sont dans la nuit. Nous espérons pour tous la nouvelle naissance et le monde nouveau marqué par la lumière et l'espérance. Nous remettons ceux que nous aimons, que nous connaissons bien, peut-être des voisins, des parents, des amis, et tous les autres, bien sûr, et en particulier ces jeunes et catéchumènes, qui aujourd'hui auraient dû confirmer leur baptême ou être baptisés. Oh certes, on les retrouvera à la rentrée scolaire, mais peut-être qu'aujourd'hui, nous aurions vraiment voulu les voir avec nous, autour de nous, et nous aurions voulu les voir avec leur discours, parfois maladroit, mais souvent plein très très émouvant. Voilà. Nous prions aussi, Père, pour tes églises. Elles sont issues de Pentecôte, finalement, ces églises. Elles sont porteuses du message de la bonne nouvelle et du royaume. Que ces églises soient toujours inspirées par l'Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Chers amis, je vous invite à vivre notre dernier moment de culte, si je puis dire, mais comme disent les Anglais, « last but not least », le dernier, mais pas tout le dernier, car nous aurons, j'espère, d'autres moments de culte, ça va de soi, mais nos cultes finissent toujours par la bénédiction. Toujours par la bénédiction, parce que c'est peut-être le mot qui vient conclure toute cette prédication de Pentecôte, d'un amour qui nous est offert, d'une énergie qui nous est donnée, c'est quelque chose de positif et de bien. Quelque chose de positif et de bien qui vient d'un Dieu qui est plein d'amour, que nous bénissons sans cesse et qui lui-même nous bénit. Soyez, au travers de la distance, bénis par Dieu. Recevez la parole créatrice, recevez la puissance de l'Esprit Saint. Que cet Esprit vous baigne, vous conduise et vous éclaire. Maintenant et à jamais. Allez en paix. Amen. À toi, Antoine. All people that on earth do dwell. super. Mais écoutez, je vous souhaite un bon dimanche de Pentecôte, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez fredonné le psaume 100 en anglais ou en français, peu importe. Hier, je vous fais part de quelques annonces. D'abord, bon là, c'est acquis, il n'y a pas de problème. Nous recevons Arthur Joly, le futur pasteur, qui entrera en poste dès le 1er juillet. Hein, je veux dire. Donc, on va le recevoir, enfin, le conseil presbytéral le recevra cette semaine, je crois que c'est mardi prochain, soir. Je ne vais pas dire de bêtises, Claire, si je me trompe, tu me le dis.
Non, c'est mardi effectivement. Mardi.
C'est bien ça, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, j'espère. Pour moi, c'est une nouvelle un peu tristounette, puisque bon, je vous quitte donc le 1er juillet, mais enfin voilà. Alors, autre annonce. Arthur habitera avec son épouse, sa compagne à
Fontainebleau,
voilà, je cherchais là. Je vois toujours la crème fraîche là, de Fontainebleau. C'est ça la gourmandise. Hein. À Fontainebleau, je préfère le gâteau au château. Enfin bon, c'est autre chose. Voilà. J'ai une autre nouvelle à vous dire, puisque le presbytère sera vacant, vide. Il faudrait pouvoir le louer comme ça a été fait avant que j'arrive, il y a 3-4 ans. Le problème, c'est que Sœur Bénédicte et la Maison d'Unité, elles ont tout prévu pour l'an prochain. Donc, Bénédicte n'a pas de... La petite Bénédicte, vous voyez qui c'est, je ne sais pas si vous la visualisez, enfin, moi je la connais assez bien. Donc, Sœur Bénédicte n'a pas pour l'instant de jeunes chrétiens à mettre dans le presbytère de Châtenay, parce que tout est bouclé. Alors, elle m'a dit ceci. Ce qui est intéressant, c'est que vous fassiez passer l'annonce dans tous les milieux chrétiens que vous connaissez, et en particulier ceux de l'Église protestante unie de France, qu'il y a cette possibilité de pouvoir mettre en colocation des jeunes chrétiens qui sont encadrés par la Maison d'Unité. Vous voyez ? Et donc, si vous connaissez des jeunes comme cela, vous en avez entendu parler, eh bien, on pourrait rattraper le coup, précisément, pour pouvoir remettre des jeunes dans le presbytère. Alors, pour cela, Sœur Bénédicte m'a donné son téléphone. Alors, à vos stylos, mais sinon vous me le demanderez, c'est 06 79 85 93 75. Donc, 06 79 85 93 75. Voilà, et enfin, dernière annonce, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dit à un moment donné dans la prédication qu'on pouvait saisir le Saint-Esprit, enfin, etc., entre autres par la lecture de la Bible. Et le problème, c'est que ces Bibles, il faut les éditer. Et que si on édite des Bibles, si on les distribue le jour de Pentecôte aux catéchumènes qui confirment leur baptême, ou qui sont baptisés ce jour-là, ou aux jeunes mariés pour qu'ils puissent lire la Bible de temps en temps, eh bien, c'est qu'on les offre, ces Bibles. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de participer aux finances de l'Église. Je vois le visage de Nicole là qui apparaît tout doucement, elle fait oui de la tête.
Oui, je vais dire deux mots.
Et donc, n'oubliez pas qu'une dépense dans l'Église, c'est un investissement. Ce n'est pas une perte du tout, c'est un investissement pour l'avenir. C'est ça qui est important, qu'il faut bien saisir. Et pour ça qu'il y a des finances toutes bêtes et toutes simples dans l'Église. Il y a une partie qui fait partie de la chair dans l'Église, hein, de la chair bassement matérialiste dans l'Église. Mais cette partie, je dirais, de Sarx, de la chair qui est dans l'Église, est, je dirais, sublimée par l'Esprit, parce que toutes ces finances que vous donnez à l'Église sont mises au service, par la puissance du Saint-Esprit, mises au service de l'annonce de la bonne nouvelle pour le monde. Donc, voilà. Ne perdez pas de vue cela. Il n'y a pas de collecte occulte, vous le savez, donc vous pouvez le rattraper en envoyant des dons, si vous le voulez, soit des chèques, soit des virements bancaires, n'hésitez pas à le faire. C'est quand même quelque chose d'important si on veut continuer l'aventure, hein, tout bêtement. Voilà, je crois que j'ai rien oublié dans mes finances. Je te regarde, je vois Claire et Nicole qui apparaissent dans le coin de mon écran. C'est quand même l'avantage, hein, je veux dire. Ouais.
Pour préciser un petit peu par rapport à ce que tu as dit, d'abord un grand, grand merci à vous tous qui avez continué à envoyer des dons par tout moyen, entre autres le don en ligne maintenant qui est mis en place. Mais donc, suite à ce que disait Vincent, le dimanche, quand nous sommes tous ensemble, au moment de l'offrande, nous mettons notre obol dans les petites corbeilles qui circulent, mais là, étant donné que nous ne pouvons pas le faire, je vous incite ou je vous propose plutôt de prendre une enveloppe dans laquelle vous mettrez ou vous mettriez les dons que vous n'avez pas pu faire pendant ces différents cultes, et soit donc vous remettrez cette enveloppe quand nous allons nous retrouver, ou bien si vous préférez compenser en envoyant cette somme par chèque ou autre moyen, mais je vous demande de bien préciser qu'il s'agit de votre offrande au culte. Voilà, et je vous remercie encore un grand merci pour vous tous qui continuez à envoyer des dons et à faire vivre l'Église.
Super, merci. Mais il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche. Hein, il fait beau, c'est assez génial, donc profitez-en bien. Hein, et puis on va se retrouver très bientôt, j'espère. Hein, voilà.
On se retrouve.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Vincent.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Merci Vincent, bon dimanche.
Merci, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Tu voulais dire Claire ? Oui Claire,
tu voulais dire Claire ? Juste dire que c'est affiché sur l'écran, mais tout le monde ne voit pas l'écran, que donc on aura encore dimanche prochain le dernier culte en ligne, ouais. On reprendra le culte en présentiel, comme on dit aujourd'hui, en principe, le 14. Donc, le conseil presbytéral est en train de voir comment organiser les lieux de façon à ce que ce soit possible. Comme le 14, il n'y a pas Sainte-Seine, pour l'instant, on a largement le temps encore de voir comment on organisera la Sainte-Seine avec des petits verres. Enfin, on va voir, on est en train d'envisager cela. Voilà, donc le 14, sur place, avec toutes les précautions qu'on pourra prendre, bien sûr. Donc, à bientôt et de toute façon, on se retrouve déjà dimanche prochain. Et puis, samedi 13 juin pour le partage biblique, le matin à 10h30, comme les autres samedis. Voilà.
Voilà.
Et dimanche.